Bonjour. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Michel, bonjour Sylvain.
Alors, c'est donc émission solidaire d'abord, émission qui nous est permise par Fréquence 7, différente et pas pareille. Merci Fréquence 7. Et donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets qui grattent un peu quand même. La conf avait appelé à une manif samedi à Saint-Péret par rapport à cette déviation qui... Ils ont fait plein de choses, là, plein de travaux, rendu des terres agricoles fertiles complètement inutilisables, hein, c'est ça. Et donc, en fait, ce projet est très ancien.
Ouais, c'est un projet des années 80 à peu près. C'est-à-dire que c'était l'époque où il fallait aller vite, circuler beaucoup, c'était pas du tout un problème. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le ring valentinois, c'est-à-dire le Tour de Valence. Et donc voilà, c'était un bout. Alors c'est à peu près 1,6 km de déviation qui vont être installés. Pour le moment, les travaux ont commencé, mais on est loin d'avoir terminé. Avec, alors, pour le moment, la version n'est pas officielle, la possibilité de faire un nouveau pont qui relierait Saint-Péret avec en face. Alors, je ne sais pas trop où ça tombe en face. Mais voilà, quoi. En fait, c'est encore une fois, ça fait partie de ces travaux qu'on engage. Pour encore plus de circulation, encore plus de... Enfin, on sait très bien qu'à partir du moment où on fait des routes, elles vont être empruntées.
Oui.
Et à un moment donné, ça questionne. Et surtout que en Ardèche, les terres agricoles sont rares.
Ouais. Alors, c'est un vieux projet. Tu dis quasiment 50 ans, en fait. Hein. Mmh. Et alors, pourquoi il a tant tardé
Il a été abandonné. Après, il est revenu, comme souvent un peu ces grands projets, parce que déjà, je pense qu'il faut trouver des financements, il faut trouver qui les mettre en œuvre et tout. Et là, en fait, ça a été remis. C'était un peu le bébé du dernier, enfin d'avant-dernier, enfin pas le maire actuel, celui qu'il y avait juste avant de Saint-Péret, qui voulait absolument que ce projet voie le jour, et donc ils ont un peu accéléré là pour que... Alors moi je connais pas toute l'histoire, apparemment il y a eu quand même pas mal en plus de rebondissements avec l'association Alter qui s'est opposée au projet, avec des c'est passé en justice, il y a eu des refus et de... Voilà, donc apparemment tout n'est pas terminé non plus par rapport à la justice. Alors pareil, moi je sais pas trop. En tout cas nous, notre position à la Confédération Paysanne...
Donc, parce que tu es porte-parole de la conf.
Hein, en co-porte-parole, on est trois maintenant, ouais. Oui. Notre vision des choses, c'est de dire qu'aujourd'hui en Ardèche, pas qu'en Ardèche d'ailleurs, mais enfin en tout cas ici, pour nous, les terres agricoles, ça compte. En fait, c'est pas beaucoup en soi, mais c'est un peu comme la tablette de chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, un carreau, c'est pas beaucoup, mais tu as vite mangé les 24 carreaux et après, il n'y a plus de tablette. Donc, ces terres agricoles, c'est des super bonnes terres. Et pour nous, c'est aujourd'hui inadmissible de continuer à utiliser des terres. C'est vrai que les surfaces en soi, c'est... Alors, en plus de ça, ce qui nous choque à nous, c'est que... La DDT, donc via la DDT, la préfecture, n'arrête pas de communiquer là-dessus. En disant qu'on est un département on n'a que 4% de terres arables dans le département et 24% de terres agricoles. Donc on a un territoire où il n'y a pas beaucoup de terres agricoles. Et on continue de manger à peu près l'équivalent de 6 exploitations agricoles par an, enfin à peu près 250 hectares. Oui. Donc c'est quand même énorme. Oui. Il faut arrêter l'hémorragie. Tout le monde communique là-dessus, tout le monde en a conscience, mais on continue à le faire. Alors, quand c'est pour des habitations, quand c'est pour du logement, bon, on peut commencer à comprendre qu'il y a certainement des façons de faire pour éviter. Mais quand c'est pour construire des infrastructures, et qu'en plus ces infrastructures vont dans le sens de continuer à mettre en place, à faire vivre ce modèle de société qui circule dans tous les sens, on se dit que c'est peut-être le moment justement de penser autrement à la mobilité.
Oui, oui,
même si c'est pas notre, on sort de l'agriculture.
Alors vous étiez pour cette manifestation donc de samedi, mais en fait il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé, parce que ça fait 5 jours en gros que là-bas il y a eu des militants qui ont voulu s'opposer à ce chantier en fait.
Ah bah après moi je nous en tout cas la Confédération Paysanne, nous on appelait simplement la manifestation de samedi. vendredi. Et après, en effet, il y a eu d'autres actions qui ont eu lieu le jeudi, le vendredi, par d'autres personnes. Alors, je ne sais même pas s'ils ont revendiqué, je ne pense pas. Et donc, qui ont été arrêtés. Donc, il y en a 8 qui sont, je crois, 8 ou 11, je ne sais plus en garde à vue.
8 qui se sont retrouvés au tribunal.
Ouais.
Hein, voilà. Et donc, c'était aujourd'hui, à 14h, à Valence.
Ouais, mais je crois qu'en fait, maintenant, ils ont été relâchés.
Et donc, il y aura un procès qui se passera début juillet.
Ouais,
ça, je crois que 5 ou 6, je ne sais plus exactement.
Ouais. Bah après, oui. Ça a été. On voit que la répression, quand c'est pour des militants écologistes, elle est toujours très forte.
Ouais. Ben, ils n'y sont pas allés à moitié avec le dos de la cuillère, les flics, là. Hein, ouais. Parce que, quand même, les gens se sont retrouvés.
La justice aussi, pas que les flics.
La justice. Ils se sont retrouvés en garde à vue, puis très vite, ils ont été déférés. Hein, donc, il y en a qui ont passé 3 jours en tôle, là. Trois ou quatre jours en tôle.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu sévère, là, le total, quand même. Hein. Ils s'étaient suspendus au pont.
Il y en avait 2 qui s'étaient suspendus au pont. Frédéric Mistral, le pont qui traverse l'autoroute, le jeudi matin, je crois.
Ouais. Ils ont été délogés par l'armée, hein, si j'ai bien compris. Et donc, carrément. Et donc, après, ils ont atterri en garde à vue. Ouais. Et puis, il y a eu une manif pour essayer de les soutenir. Et là, il y a eu des gens qui se sont fait choper au passage. Et donc, au total, ils se sont retrouvés 8. La manif qui a eu lieu samedi...
Elle était apaisée, apparemment. Il y avait à peu près 450 personnes. Donc là, ça s'est plutôt bien passé. C'était plutôt festif et familial. Hein. C'était l'objectif de cette manif. Nous, on n'appelait qu'à cette manif. Après, on ne porte aucun jugement sur les actions des copains.
Oui,
des pas copains, d'ailleurs, mais enfin des autres. Parce qu'en fait, chacun agit comme bon lui semble. En tout cas, nous, on ne porte pas de jugement là-dessus.
Alors, il y avait un petit peu ce que tu expliques. Là, dans les structures qui étaient à mettre en place ce week-end, il y avait un truc, un pont rail SNCF. Il y avait une urgence en fait pour eux.
Alors en fait, ce week-end-là, c'était la mise en place en effet d'un pont rail qui va passer. C'était une structure qui avait été construite à côté et qui allait être déplacée. C'est un truc qui fait 1500 tonnes. Pour installer ce fameux pont rail, il faut couper la circulation de la SNCF et la SNCF, enfin la circulation des trains. Avec la SNCF, parce qu'en fait la SNCF qui gère le réseau français loue son réseau à des transporteurs qui font du fret. Donc en fait il y a des trains de plein de compagnies qui voyagent sur ce réseau là.
C'est complexe
et donc pour fermer la circulation, ça se fait pas comme ça en deux. Et donc apparemment, si j'ai bien compris, c'était soit ce week-end là, soit si c'était pas fait ce week-end là, s'ils avaient pas pu le faire ce week-end là, ou si ça avait pas été fait ce week-end là, ça reportait à beaucoup plus loin. Et c'est peut-être ce qui explique un peu les tensions qu'il y a pu y avoir, peut-être.
Ouais. Alors, il semblerait qu'il ait été utilisé beaucoup la vidéo, tu sais, reconnaissance faciale, là, etc.
Ah ouais, ça, je ne sais pas. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et je crois que ça a vachement bien marché. Donc, je crois qu'il y a des gens qui se moquaient un peu. Parce que donc, au tribunal, t'avais un gars qui était interviewé. C'était un peu du genre, vous êtes monsieur Dubois. Ah non, pardon, non, c'était pas ça. Vous êtes monsieur Martin. Ah non, c'est pas, non, c'est vous êtes monsieur Alexandre, non, et donc voilà.
Parce que en fait, c'est pas compris ça.
Mais parce que donc en fait, la reconnaissance faciale a pas fonctionné du tout.
Ouais, d'accord, ouais.
Donc voilà, donc ils arrivaient pas à trouver vraiment l'identité des gens. Enfin, bon, écoute, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Peut-être que je grossis, hein, parce que j'aime bien un peu grossir, tu vois. Alors, bon.
Oui, en tout cas, tout ce qu'on note, c'est qu'en effet, ces actions-là sont. Alors, c'est de la désobéissance civile, hein, c'est assumé. La répression est très forte et on sent que. C'est pas la première fois. Il y avait déjà eu Sainte-Soline avant et tout. Ouais. Donc, on sent qu'en effet, il y a. Une volonté en tout cas que ce genre d'événement n'ait pas lieu. Après, moi la question qui m'interroge moi derrière tout ça, mais là je parle vraiment assez individuel, c'est qu'en fait on est quand même dans une situation qui est compliquée. Enfin moi il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Moi j'ai l'impression qu'en fait Chaque génération, elle a des défis à relever. Et chaque génération, les défis qu'elle a à relever sont souvent en lien avec ce qui s'est passé avant. En fait, c'est l'évolution. La génération de nos parents, le défi qu'ils avaient à relever, en tout cas qu'ils avaient envie de relever, c'était d'arrêter qu'il y ait des guerres en Europe. Et ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'après, on peut critiquer la façon dont ça s'est fait, tout ce qu'on veut. Bon, ça, je veux bien, mais n'empêche qu'ils ont, ils avaient cette. Moi, j'ai toujours entendu mes parents dire on veut plus qu'il y ait de guerre, parce que bon, ils avaient quand même eu 60 millions de morts à la guerre 39-40, un peu moins de 20 millions à celle d'avant. Ça fait du monde, hein, quand même, qui dégage. La guerre 14, c'est 900 morts par jour, hein, en France, hein, rien qu'en France. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on l'avalerait mal, cette pilule-là. Donc, ils ont fait ce travail. Ils ont réussi, cette génération-là, à. Avec certainement des choses qui auraient pu être faites autrement, mais ils ont eu accord de faire ça. Aujourd'hui, notre génération, elle a quelque chose à faire, c'est un défi écologique. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que on a toutes les données pour faire ça. On le sait, c'est comme ça. Il faut qu'on remplisse.
Il y a un job à faire.
Il y a un job à faire. On doit faire une transition écologique forte, qui va demander un changement de modèle de société. Mais nos parents ont fait la même chose. Ils ont changé leur modèle de société. On peut critiquer peut-être qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas fait, mais ils ont quand même changé de modèle de société. Donc on est en train de nous dire que nous, on n'est pas capable de changer ce modèle de société. Je trouve ça violent quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire à nos enfants, nos petits-enfants, après, on leur dira, bah, écoutez, nous, on n'a pas été foutus de changer le modèle de société. On n'a pas été foutu de répondre à ce défi écologique qui est fort, qu'on doit mettre en place, qui est compliqué. Alors, au niveau agricole, ça demande un travail de fou, un travail de malade. Et moi, je suis dégoûté parce que on s'aperçoit que non, c'est pas grave, on va pourrir des terres agricoles encore pour empêcher la souveraineté alimentaire. On va encore, on en parlera peut-être après, vouloir réintroduire des produits qu'il faut arrêter d'utiliser. Parce que simplement pour répondre à des besoins économiques. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de montrer? On est en train de montrer que. On est incapable de relever ce défi, et moi je trouve ça vraiment désolant, quoi.
Mais là, il y a quand même quelque chose par rapport à la démocratie qui fonctionne pas pareil, parce que d'un certain point de vue, les gens étaient vraiment mal de ces guerres dont tu parlais. Ils ont pu donc être entendus sur ça, hein, par les gouvernants. Mais là, on sait tous qu'il y a un problème écologique, et les gouvernants ne veulent pas l'entendre.
Oui, bien sûr. Oui, mais après, les gouvernants ne peuvent pas l'entendre, mais il y a aussi, enfin, moi je suis désolé, il y a aussi des soutiens aux gouvernants. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des enfin, nous, dans le monde agricole, il y a des agriculteurs qui demandent la réautorisation des produits interdits pour pouvoir continuer leur activité, alors qu'ils pourraient demander, en effet, de changer le modèle agricole pour pouvoir ne plus utiliser les produits interdits. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Moi, je n'accuse pas celui qui utilise des produits parce qu'il est dans une situation économique qui fait que. Mais au moins qu'ils disent clairement, moi j'aimerais bien qu'on arrête d'utiliser ces produits-là. Mais par contre, en effet, il faut changer tout le modèle. Alors en effet, c'est un gros job parce que ça demande, ça ne va pas faire que des heureux. Hein. Il y a tous ceux qui se gavent sur tous ces produits qui sont quand même.
Bon, là, on tourne autour du pot depuis un petit moment. C'est la loi du plomb 2.
C'est la loi du plomb 2.
La loi du plomb 2. Alors, la loi du plomb 1, pour recontextualiser le truc, quand même, il y a eu, souvenez-vous, il y a un petit peu plus d'un an, cette loi du plomb 1 qui est en chantier, qui se précise, puis il y a une pétition qui est signée. Plus de 2 millions de personnes qui signent cette pétition pour dire non aux néonicotinoïdes. Je vais doucement parce que c'est compliqué à prononcer. Donc là, on se retrouve avec des trucs du genre acétamipride. Celui-là, ça va, il y en a un autre, j'arrive pas à le prononcer, donc je m'y risquerai pas. Enfin voilà, ils ont des noms sympathiques, ces produits. Et en fait, c'est catastrophique, en fait, ces produits, justement pour un avenir ensemble, je sais pas comment dire, pour un avenir agricole possible.
Surtout, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'un produit, il n'est pas interdit comme ça en deux-deux. C'est-à-dire qu'en général, quand un produit est interdit, c'est qu'il y a un gros parcours avant. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un autre exemple qu'un produit qui est interdit, mais que certains demandent la réautorisation, c'est le diméthoate, qui servait à traiter la mouche de la cerise. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la Drosophile Suzuki sur les cerises, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'était avant. Et l'interdiction de ce produit pose problème, il faut reconnaître. Mais ce produit, il a été interdit en 2016, après avoir eu un premier avis défavorable de l'ANSES en 1964. Donc
Ah oui, quand
52
même.
ans pour
Oh là là
l'interdire.
là.
Donc c'est pas du peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, un cheminement pour interdire un produit, c'est complexe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prouver que le produit n'est pas bon, machin. C'est plus compliqué apparemment pour l'interdire que pour l'autoriser. Donc à partir du moment où ce produit est interdit, c'est qu'il met en danger bah, soit la santé des agriculteurs, des agricultrices, soit de nos outils de travail, c'est-à-dire la terre. Moi, je pense qu'à un moment donné, bah, quand il faut avoir confiance à la science, et je rappelle quand même que Laurent Duplomb, quand il est venu en Ardèche, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il a dit qu'on ne pouvait pas s'appuyer que sur la science. C'est-à-dire qu'en fait, lui considère que la science, c'est presque une opinion pour lui. Non, la science, ce n'est pas une opinion. En plus, on sait que les scientifiques, pour se prononcer, ils prennent leur temps. Hein. C'est pas, en général, pour que ça fasse un consensus, ça prend des années et des années. Ils n'ont pas dit tout de suite, non, non, les produits chimiques, c'est interdit. Il a fallu qu'il y ait quand même beaucoup de travail derrière. Donc maintenant, il y a un consensus scientifique qui dit qu'en effet, les produits chimiques, il y a un gros risque pour la biodiversité. Je vais reciter quand même, j'aime bien le citer quand même, parce que presque, on va dire, qu'il nous manque aujourd'hui, le président de la République qu'on avait en 2002, qui avait dit au sommet de Johannesburg, faisons en sorte que le 21e siècle ne soit pas un crime de l'humanité contre le vivant. Donc, président de la République en 2002, c'était pas un extrême gauche comme
Non,
type. Donc,
c'est le moins qu'on
lui,
puisse
voilà,
dire.
lui, il dit ça. Même Michel Barnier, quand il arrive au Premier ministre, il dit on a une dette économique, mais on a aussi une dette écologique. Donc, ils en ont conscience de ça. Enfin, je veux dire, soit ils le disent pas, soit ils le disent. S'ils le disent, c'est qu'ils le mettent sur la table. Donc, on le met sur la table, on le travaille. Donc, la loi Duplomb, eh ben, elle fait quoi? Elle empêche cette transition écologique, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle nous empêche de faire se relever ce défi, elle refuse de faire ce défi. En fait, elle fait de nous presque, j'ai envie de dire, des incapables. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se dire, ben voilà, on va demander, on va faire quelque chose pour changer ça. Et en plus, le défi, il est relevable, quoi. On en a
Oui,
relevé
c'est pas
d'autres. C'est
insurmontable.
pas insurmontable.
Mais alors, en plus, donc déjà, la première fois du loi Duplomb 1, moi je trouve qu'il y a quand même de la magouille dans l'air, parce que y a 2 millions de gens qui pétitionnent, il y a un grand émoi, ça passe au Conseil d'État, et puis finalement, ce qui est retoqué, c'est pas toute la loi
Non.
Duplomb 1, c'est une partie de la loi Duplomb 1,
Oui,
parce que évidemment, dans la loi Duplomb 1, il y avait quand même des choses,
Ouais.
entre autres sur les grosses bassines.
Sur les
Hein.
bassines, sur les ICPE. Donc les ICPE, c'est la facile. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est ça. En assouplissant cette règle des ICPE, ce sera plus facile d'installer des grosses structures. En fait, la loi Duplomb, elle a. Mais de toute façon, Duplomb, il le cache pas, puisqu'il considère que tous les agriculteurs qui gagnent moins de 25 000 euros par, enfin, qui font moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est pas des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y a que les gros
Lui, c'est un entrepreneur, en fait.
c'est des entrepreneurs. Donc, en fait, il considère, lui, que voilà, il défend un modèle agricole qui est un modèle agricole industrialisé et qui tend à se développer avec tous les risques que ça comporte pour l'autonomie, parce que ces grosses exploitations, qui va les reprendre derrière? C'est-à-dire qu'après, on est vraiment dans le modèle
Pour
capitaliste.
le coup, là, on change pas de modèle. Hein.
Alors,
On risque pas de faire ce que
on
tu disais tout à l'heure sur la génération d'avant
Non,
qui s'est posé des questions. Là, on se pose
non,
pas de questions,
non,
on fonce.
on continue le modèle parce qu'en fait, c'est un modèle qui fonctionne sur tous les plans, enfin, je veux dire, qui fonctionne, sauf sur ce qui nous intéresse le plus, en tout cas pour notre avenir, c'est-à-dire alors, sur le plan social, il y a aussi des choses à dire, mais enfin, bon, c'est quelque chose qui se débat, alors que l'écologie, c'est scientifique, c'est pas une opinion.
Non, mais là, lui, il parle effectivement
Oui,
d'opinion.
tout à fait.
Hein. C'est très grave. Alors après, donc maintenant, il y a une loi Duplomb 2 en
Ouais.
plus. Hein. Donc il a voulu à tout prix. Et donc là, il veut réintroduire certains.
Oui, en fait, il
Et
veut.
même aller
Il,
plus loin.
oui, en fait, la loi, le principe de la loi Duplomb, c'est de. Enfin, l'envie, c'est de dire, en fait, de lever les contraintes du métier d'agriculteur, c'est-à-dire de permettre aux agriculteurs de faire un peu tout ce qu'ils veulent sans être contrôlés, dans le moins contrôlés possible, simplement en oubliant que, ben, encore une fois, dans tous les métiers, aujourd'hui, la transition écologique, elle est à la tête de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tout le monde ne le fait pas forcément bien, mais c'est dans tous les métiers, tout le monde, l'agriculture doit prendre sa part comme les autres, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que
Alors,
ça.
le Conseil d'État s'est opposé à nouveau hein,
Ah, ouais.
à la loi Duplomb 2. Hein.
Ouais.
Donc, moi, j'ai vu un truc de Polynice. Alors, je ne sais pas ce que tu penses
Non,
de
j'ai pas lu
Polynice.
Polynice, ouais.
Hein, j'ai lu un truc là-dessus, là, où ils expliquent que, bon, ben voilà, c'est une victoire parce que, quand même, le Conseil Conseil d'État a arrêté du plomb, quoi.
Ouais. Mais bon, ça fait partie de... Voilà, enfin, moi, ça me désole parce que, en plus, ça a tendance à vachement diviser au sein du monde agricole. Et du coup, bah, il y a maintenant... voilà, vraiment deux positions vraiment très très différentes et d'un côté de ceux qui considèrent que la transition écologique, ben, il faut absolument la faire, c'est une nécessité, et puis d'autres qui disent que non, c'est une contrainte, quoi, alors que c'est pas une contrainte, c'est une obligation, quoi.
Oui, oui, ouais. il faut à tout prix changer le,
ben, c'est comme ça,
changer,
ouais.
Changer de braquet, on peut, ouais, pas, ouais. Voilà. Alors après il y a cette loi d'urgence agricole, on va en dire
alors moi je connais pas pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de trop regarder là où elle nous mène. Elle va être débattue là fin mai, début juin entre les deux assemblées, quoi, le Sénat et l'Assemblée nationale, ouais. Les deux chambres, cherchez le mot. Et voilà, après moi je peux pas trop en parler parce que j'avoue que j'ai pas trop fouillé. Mais en fait c'est la loi qui avait été proposée par Sébastien Lecornu au lendemain des manifestations de janvier où la FNSEA est arrivée avec 300 tracteurs sur les Champs-Élysées, là, ça a été très vite. Donc,
Tout ça, c'était à la suite de la DNC, en fait. Hein.
Il y avait plusieurs causes, oui. Il y avait entre autres, enfin, il y avait eu la DNC qui était arrivée, où là aussi, il y avait des positions qui étaient différentes entre les syndicats.
Modulaires.
Contagieuses. Mais il y avait aussi, à l'époque, le Mercosur. Qui était aussi sur le tapis.
Oui. Qui finalement est...
Qui est passé.
Comme d'habitude.
Ouais.
Donc tout le monde a manifesté contre, mais ouais. Voilà, c'est comme la loi retraite. Enfin bon, voilà, c'est pareil. Mmh. Alors tu disais, toi, à un niveau plus personnel, tu as été quand même très très impacté par la grêle, là,
ouais, alors
récemment,
le fait
au local, on va dire.
Ouais, alors moi, j'alerte par rapport à la grêle. Bon, le fait qu'on se prenne de la grêle sur la tête, c'est déjà arrivé, ça arrivera d'autres fois. C'est par contre maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en agriculture, on a mis en place un système d'assurantiel privé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, bah, c'est le paysan qui s'assure lui-même, donc il faut qu'il aille voir un assureur, et 70% de sa cotisation va être pris en charge par la PAC, la politique agricole commune, et sur le deuxième pilier, c'est-à-dire sur le pilier agroécologique. Et en fait, ce qu'on a toujours défendu à la Confédération paysanne, c'est qu'en fait, ce système ne soit pas un assurantiel privé, mais que ce soit une cotisation qui soit généralisée, qui soit prise en compte par tout l'amont et l'aval de la production, c'est-à-dire ceux qui vendent des produits aux agriculteurs, et surtout l'agro-industrie et les grandes surfaces qui achètent des produits aux agriculteurs et qui les revendent. Pour nous, il nous semble qu'il devrait y avoir une cotisation, enfin une contribution de la part de tout le monde pour permettre aux agriculteurs qui sont impactés par le dérèglement climatique et les impacts, parce que là il y a la grêle, mais ça peut, des fois c'est pas que la grêle, ça peut être des inondations, des sécheresses, etc., que tout le monde puisse se garantir un revenu, au lieu encore une fois de mettre en concurrence avec ceux qui vont pouvoir s'assurer, ceux qui vont pas pouvoir s'assurer, ceux qui ont eu de la chance parce que le copain il a grêlé, il a pu vendre plus cher cette année-là, etc. On aurait arrêté tout ça et tombé dans un système en fait de solidarité, et ça c'est quelque chose qu'on
parle de sujet qui... Voilà, on est sur l'indépendance, l'autonomie de l'exploitation. Bah,
complètement, c'est qu'à partir du moment où nous, on va subir de plein fouet tous les aléas climatiques, on ne peut pas se défendre tout seul par rapport à ça, quoi.
Alors, il y a une grosse crise qui nous arrive aussi, là, qui va arriver après la petite guerre à Trump. Hein, c'est qu'on va se retrouver à avoir l'an prochain. Là, tu dis les stocks pour cette année, à la fois au niveau du pétrole, mais aussi au niveau des engrais, parce que... Il va y avoir donc un gros souci.
On est dans la vision de notre autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ben, aujourd'hui, c'est arrivé il y a quelques années avec la guerre en Ukraine. On n'est pas concerné directement en fait, par les décisions qui sont prises. Là, c'est pareil. Par contre, ben, on va avoir les répercussions. Donc en fait, on est dans des systèmes qui ne sont pas du tout autonomes.
Parce que tu disais, par exemple, pour les engrais, ça peut être multiplié par 3.
Ça peut être multiplié par 2, par 3, par 4. Ouais, ça va dépendre, évidemment, du prix, du coût. Parce que les engrais, c'est très énergivore.
Fou, si on se retrouve avec des... Ça va complètement changer.
Ah bah ça va complètement changer la donne, tout à fait. Ouais. Et puis, en plus, de toute façon, encore une fois, on est loin d'être... Je vois pas comment, après, on peut parler de souveraineté alimentaire quand on est dans cette situation-là. Quoi.
Ouais. Alors, un tout petit mot sur la Chambre. Parce que quand même, tu... Voilà,
je suis élu à la Chambre, toujours.
Voilà, t'es élu à la Chambre. C'est quand même une grande, grande victoire. soir de la conf. Ouais. Voilà, comment ça se passe?
Est-ce que nous, vous arrivez... ça se passe bien. Non, non, enfin, le travail qu'on mène à la chambre, ça se passe bien. Alors, moi, je ne fais pas partie du bureau parce qu'on a bien scindé ceux qui dirigent, entre guillemets, la chambre d'agriculture et ceux qui sont restés au syndicat. Par contre, moi, je suis resté au syndicat. Et bah, en tout cas, moi, on est tout contents du travail qui est fait. Et le bureau se débrouille très bien. On voit que ça fonctionne. Bon, voilà, quoi. Non, non, ça se passe plutôt bien, ouais.
Et donc, avec les autorités
On a toujours un peu des difficultés avec le département qui avait... on sent bien que... Bah, ils soutiennent plus, enfin ils soutiennent ouvertement la FDSEA et l'IGA. Hein, ils vont au fait, ils ont rencontré Laurent Duplon sur des fermes.
Théoriquement, ils sont pas aux manettes, ces gens-là, théoriquement.
Bah voilà, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que bah, nous, en fait, c'est le choix des paysans. Nous, on s'est pas imposé. Donc, ouais. À eux, après, de décider quelles considérations ils ont pour le choix des paysans. Les paysans le voient bien, hein. ils sont pas dupes. Hein. Voilà, eux en tout cas, bah, ils montrent clairement qu'ils défendent la Fédélégia. Autrement, ils vont à la Fédélégia. Ils nous parlent presque pas. Enfin, en tout cas, la Confédération paysanne, je parle pas de la Chambre d'agriculture. Et du coup, bah, après. Si c'est leur choix, c'est comme ça.
Alors, un tout petit rappel, juste résumé, parce qu'on a fini. Donc, à Saint-Péret, le procès est reporté en juillet.
Tu l'as dit tout à l'heure, ouais, 5 juillet.
Je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'était pour.
Bah ouais, bah c'est très bien. Voilà, ceux qui veulent en tout cas soutenir ces militants-là, bah, ils peuvent venir le 5 juillet. Quoi.
Voilà. À bientôt.
Merci.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Merci beaucoup.